Bertrand Sauré, bonjour.
Bonjour.
À ce jour, quelle est vraiment la vraie position de l'Union européenne sur la situation en République démocratique du Congo? On sait qu'il y a désormais deux camps, ceux qui ont toujours soutenu le dialogue en République démocratique du Congo et maintenant soutiennent les résolutions issues de ce forum, mais aussi de l'autre côté, ceux qui ont toujours rejeté et continuent de rejeter, y compris les résolutions de ce forum. Où se trouve aujourd'hui l'Union européenne dans tout ça? Du premier ou du deuxième côté?
Mais l'Union européenne n'a jamais varié dans son discours. Comme vous l'avez rappelé, nous avons soutenu le dialogue national et d'ailleurs nous étions membres du comité de soutien et nous espérons d'ailleurs pouvoir continuer à contribuer à la mise en œuvre des résultats de ce dialogue. Maintenant, nous ne pouvons que répéter notre position qui était dans les conclusions du Conseil la semaine dernière et qui sont d'ailleurs partagées avec l'Union africaine puisqu'hier nous avons eu une réunion à Bruxelles des deux comités, une réunion conjointe des deux comités paix et sécurité pour, comme je viens de vous le dire, saluer les efforts qui ont été accomplis et les progrès qui ont été accomplis, mais également continuer à regretter que cet accord ne soit pas inclusif et que par conséquent, que tous les problèmes ne soient pas résolus. Ce qui fait qu'il faut que l'on trouve un processus politique maintenant pour que le grand nombre rejoigne le consensus qui a été trouvé de manière à préserver la paix dans ce pays, ce qui est notre préoccupation principale.
L'Union européenne demande-t-il désormais un autre dialogue?
Il ne s'agit pas de recommencer le dialogue, il s'agit de trouver les moyens pour que ceux qui n'ont pas participé au dialogue se retrouvent dans un compromis qui permette de maintenir la paix dans ce pays, comme je viens de vous le dire. En ce qui concerne les élections, les conclusions du Conseil publiées la semaine dernière sont très claires. On parle de l'organisation d'élections pour la fin 2017 et je ne pense pas que, en tout cas, le terme organisation d'élections fin 2017 soit un problème. Nous sommes rejoints sur cette position par un certain nombre d'acteurs, dont je ne suis pas ici le porte-parole, mais vous entendez aussi bien que moi que la société civile, la CENCO, un certain nombre d'autres pays sont sur la même ligne, à savoir que les élections doivent avoir lieu le plus rapidement possible.
Le concept processus plus inclusif, ce serait quoi concrètement? Ce serait faire quoi du côté de la majorité et faire quoi du côté de l'opposition et notamment du Rassemblement?
Nous n'avons malheureusement aucune recette miracle. D'abord, nous n'avons pas la prétention d'agir à la place des Congolais eux-mêmes. Je crois que ça n'est pas notre rôle. Ça ne fait pas partie d'ailleurs des pouvoirs secrets que nous pourrions avoir. Cette phase du dialogue s'est terminée. Il y a un accord politique. Il faut voir comment, à partir de là, ramener vers la table des négociations le plus grand nombre pour que, effectivement, on ait une chance de pouvoir mettre en œuvre cet accord politique. Et surtout que l'on passe les échéances du mois de décembre de manière apaisée.
Actuellement, la facilitation se félicite bien du travail réalisé et ne voit pas un travail à compléter. La majorité aussi se félicite et continue son bonhomme de chemin. On se rend même compte qu'un nouveau gouvernement est presque en chantier en ce moment. Tout semble partir normalement sur ses rails. Quelle était la nécessité pour l'Union européenne de revenir avec des revendications qui semblent être plutôt favorables à l'opposition?
Mais encore une fois, ce ne sont pas des revendications de notre part qui soutiennent qui que ce soit et encore moins l'opposition. Ce que nous voyons, ce à quoi nous assistons, c'est que l'accord a été signé entre la majorité présidentielle et certains partis de l'opposition qui ont accepté de participer à ce dialogue. Beaucoup sont restés en dehors.
Avez-vous l'impression qu'à l'état actuel, les résolutions du dialogue récemment organisé ne tiendront pas, ne se réaliseront pas?
Il n'y a rien qui nous fasse croire que le dialogue ne sera, enfin, en tout cas, que les conclusions du dialogue ne soient pas mises en œuvre.
Lorsque les choses ne semblaient pas aller bien, il y a eu des partis qui ont suspendu leur participation. On n'a vu à aucun moment l'Union européenne lever le petit doigt ou proposer qu'on ne signe pas ces résolutions parce qu'elles pourraient ne pas avoir la possibilité de se réaliser tout ou en partie. Pourquoi n'avoir pas levé le levier à ce moment-là pour empêcher ou retarder la signature de ces résolutions en attendant une plus grande inclusivité?
Mais écoutez, d'abord, l'Union européenne n'était pas membre du dialogue. Encore une fois, nous ne critiquons pas la manière dont s'est déroulé le dialogue. Nous nous sommes félicités, comme je vous l'ai dit en début d'entretien, des résultats qui ont été obtenus, même si nous pensons encore une fois que tout n'est pas résolu. Maintenant, il faut voir à partir de l'endroit où nous nous trouvons actuellement, comment on peut encore améliorer les résultats de ce dialogue de façon à ce qu'il puisse être mis en œuvre.
Alors, la présidentielle soutenue, souhaitée par les 28 pour plus tard 2017, pourquoi cette date alors que l'Union européenne est aussi partie prenante de l'évaluation du fichier électoral et tout le processus électoral. Comment pouvez-vous, malgré tout ça, encourager la présidentielle en 2017 et pas un peu plus tard pour peut-être mieux la préparer?
Tout le monde est d'accord, tous les experts sont d'accord sur le fait qu'il y a quand même une marge de manœuvre assez importante et la CENI elle-même reconnaît qu'il y a une marge de flexibilité relativement importante dans le temps, dans les moyens à mettre en œuvre pour organiser les élections. Alors on peut en discuter concrètement, on attend le nouveau calendrier de la CENI.
Est-ce que la question de la limitation de mandat est une vraie question qui préoccupe l'Union européenne? Est-ce qu'aujourd'hui l'Union européenne insiste que le président Joseph Kabila, qui est arrivé au terme de ses deux mandats, ne participe pas à un troisième? Est-ce que l'Union européenne le lui a dit clairement, oui ou non?
Mais écoutez, de ce point de vue-là, l'Union européenne n'a jamais varié. Encore une fois, l'Union européenne se réfère à la constitution congolaise et se réfère à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'un et l'autre sont relativement clairs en termes d'exigence. Donc jusqu'à présent, ce sont les textes de référence, ce sont les textes de base. Et par conséquent, en tant que membre de la communauté internationale, il est de notre devoir de faire en sorte que ces engagements qui sont pris aux yeux et publiquement de tout le monde soient effectivement respectés.
Si jamais aucune des recommandations encore faites jusqu'à présent par les 28 ne sont respectées, que va faire l'Union européenne? Est-ce que, par exemple, l'Union européenne reconnaîtra le gouvernement qui est en préparation en ce moment?
Pour l'instant, les échéances électorales ne sont pas passées, donc le gouvernement sera certainement le gouvernement d'un pays souverain. Il n'y a aucune raison que le gouvernement qui sera issu donc du dialogue dans les jours ou dans les semaines qui viennent ne soit pas reconnu internationalement. Ce qui va se passer après, ça va dépendre de l'attitude des uns et des autres. Tout le monde, tout citoyen ici en République démocratique du Congo est astreint au respect d'un certain nombre de normes internationales, à commencer par le respect des droits de l'homme, et que selon l'évaluation que nous sommes en train de faire, il pourrait y avoir effectivement des mesures de prise à l'égard de certaines personnalités et ou de manière collective en ce qui concerne la poursuite de nos relations, y compris de la coopération avec, dans un certain nombre de domaines avec les autorités congolaises, qui pourront être remises en cause ou réévaluées en fonction de l'évolution de la situation.
Bertrand Sauré, je vous remercie.
Merci beaucoup.